Eh bien les amis, Boker Tav le Koulam, on revient dans notre étude, et la vérité, ça fait tellement longtemps qu'on a arrêté notre étude, ben, pour des bonnes raisons, hein, parce qu'il y avait à chaque fois des fêtes et des limoudim particuliers. J'ai même demandé si on n'allait pas encore une fois squeezer parce qu'on allait parler de Jérusalem. On m'a dit non, les élèves ont dit on ne veut pas parler de Jérusalem, on veut continuer l'étude de l'histoire de la Kabbalah. Eh bien très bien, on y va. Et donc, où sommes-nous arrivés ? Si vous vous rappelez bien, la dernière fois qu'on a étudié, eh ben, on a étudié un énorme morceau, puisque, si je ne m'abuse, notre dernier cours est porté sur l'Arizal, sur Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Ahari, et donc voilà. Et donc maintenant, nous sommes, en termes de période, eh bien, juste qu'on se resitue, on est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. D'accord ? C'est-à-dire qu'à part, on est dans les années 1550 et plus. D'accord ? Alors, c'est un petit peu compliqué là maintenant. Pourquoi c'est compliqué ? Eh bien, tout simplement parce que le Hari va être le maître de plein de monde, mais de manière générale, il est plus jeune que tous les autres de qui il est le maître. Puisque le Hari ne va enseigner que pendant un an et demi, et finalement, il meurt très jeune, puisqu'il n'a même pas 40 ans quand il meurt. Résultat des courses, eh bien, dans la chronologie, c'est un petit peu compliqué de parler maintenant de ceux qu'on va appeler Gouré à Hari, des élèves du Hari, alors qu'en fait, ils sont nés avant lui et ils sont plus vieux que lui. Mais bon, c'est pas grave. Essayez, vous aurez compris, il n'y aura pas de problème. Et donc aujourd'hui, on va parler de trois personnages. Deux qui sont véritablement les élèves du Hari, et un qui est l'élève, un qui est l'élève puis l'élève de l'élève, et un qui arrive d'ailleurs, mais qui va se connecter à toute cette équipe. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, et nous allons parler directement de celui qui s'appelle la vie au carré. Oui, vous m'avez compris, on parle aujourd'hui d'un homme qui est né en 1542 et qui va vivre longtemps, puisqu'il va vivre presque 80 ans, il mourra en 1620 et il s'appelle Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, quand on parle des Kitvé à Hari, eh bien, quand on parle des écrits du Arizal, il faut savoir que de manière principale, on avait dit la dernière fois que le Hari avait écrit très très peu de choses lui-même. De manière principale, tous les enseignements du Hari, c'est Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, comme son nom l'indique, il vit doublement, puisqu'il vient d'une famille italienne. La famille vient d'Italie. Et Vitale, en italien, ben, ça veut dire la vie. Eh oui, vitalité. Donc, ça veut dire qu'il s'appelle Rabbi Chaim la vie. Rabbi Chaim Chaim. Mais ça y est. Donc, Rabbi Chaim Vital, qui est-ce ? Eh bien, il est celui pour qui le Arizal a été envoyé. Rappelez-vous, quand on avait parlé du Hari, on avait dit que le Hari avait dit lui-même de lui : je n'ai été envoyé dans ce monde que pour enseigner à Rabbi Chaim. Voilà mon but. C'est lui qui transmettra, c'est lui qui deviendra l'homme sur qui on va s'appuyer. Donc moi, je n'ai été envoyé que pour enseigner à Rabbi Chaim. Mais c'est vrai. Donc Rabbi Chaim Vital est l'élève du Hari. Mais le problème, c'est qu'il ne commence pas du tout comme l'élève du Arizal. Eh oui. Mais lorsqu'il devient l'élève du Arizal, il est d'ores et déjà, pourquoi est-ce que je floute ? Même question. Voilà. Lorsqu'il devient l'élève du Arizal, il est déjà un Talmid Chacham. Il est déjà Rav. Il est déjà Gdol Bekol Amuvanim. Il est déjà énorme dans la Torah. Il a étudié chez deux autres grands rabbins. Qui sont les deux autres grands rabbins chez qui il a étudié ? Eh bien, il a étudié tout d'abord chez Rabbi Moshe Cordovero, on a déjà étudié, nous, l'enseignement du Ramak, et il est également un des élèves de Rabbi Moshe Alcher. Alcher HaKadosh, si je ne me trompe pas, on a évoqué également l'enseignement du Alcher HaKadosh. Donc, Vous voyez qu'on est dans cette équipe à Tzfat où on parle de gens extraordinaires et c'est toujours compliqué parce que la Hari arrive au milieu et en un an et demi, il chamboule tout. Mais en vérité, Rabbi Chaim Vital n'est pas du tout un novice quand il arrive chez le Harizal. Et d'ailleurs, alors il étudie évidemment toute la Torah, il est Gadol Banigle, Gadol Banistar, avant même de rentrer chez le Hari, il va même s'essayer dans sa jeunesse à ce qu'on appelle l'étude de l'alchimie. Mazé alchimie, l'alchimie, c'est pas seulement la chimie, c'est pas seulement l'étude des roches, l'étude de la nature, mais essayer d'y voir également une symbolique. Alors, il s'y essaye, mais ça ne va pas aller plus loin, parce qu'en fait, Rabbi Chaim Vital va toucher à toutes les sciences, qu'elles soient les sciences de l'esprit ou les sciences empiriques, avant même de commencer son étude de la Kabbalah. Et c'est pourquoi Rabbi Chaim Vital nous dira qu'on ne peut pas rentrer dans l'étude de la Kabbalah si nous n'avons pas d'abord un sechel bien fait. En d'autres termes, et attention, je vais dire une phrase extrêmement sujette à machloquette, quelque part, nous dit Rabbi Chaim Vital, tu ne peux pas être mekoubal si tu n'as pas une formation en philosophie. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'abord une réflexion intellectuelle très construite, alors c'est très dangereux d'être mekoubal. Parce que tu n'arriveras pas à bien comprendre la profondeur de ce que nous enseigne la Kabbalah. Et tu risques d'en faire du folklore. Ben, c'est bien. Bon, maintenant, ça nous surprend pas en vérité, parce que on le savait déjà avant qu'il fallait d'avoir... Il fallait d'abord avoir une construction au niveau de sa Torah, de la Torah d'Aniglé, avant de rentrer dans la Torah d'Anistar. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous étonne de savoir qu'il faut également avoir une véritable progression intellectuelle pour pouvoir comprendre l'enseignement de la Kabbalah. Donc, Rabbi Chaim Vital, après avoir étudié chez le Ramak et chez Rabbi Moshe Alcher, va commencer à devenir l'élève du Hari. Mais ne croyez pas qu'il va accepter ce que la Harizal va lui dire de faire. Ah ben non, la preuve en est que dans les textes qu'on a, qui ont été écrits donc par Rabbi Chaim lui-même, il raconte ses entretiens avec le Hari. Si bien qu'à un moment donné, il va même raconter que le Hari lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait les kavanot, les intentions, les préparations que je t'avais dit de faire ?» pour pouvoir te connecter avec les âmes des tzadikim qui sont passées. Et la réponse de Rabbi Chaim Vital est extraordinaire. C'est-à-dire, imaginez-vous, venez, on essaye de prendre, de comparer des choses incomparables, d'accord ? On va dire que notre Harizal, c'est le Rav Ben Arosh, et on va dire que notre Rabbi Chaim Vital, eh bien, c'est David Altar. C'est-à-dire ? Allez. Et on va dire que le Rav Ben Arosh dit à David, voilà, il faut que tu fasses 1, 2, 3 pour pouvoir te connecter avec l'âme, je ne sais pas moi, du Rav Getz, l'âme du Rav Kook. Si tu fais 1, 2, 3, eh ben, tu pourras discuter un peu avec le Rav Kook. Et David, il dit, j'ai pas, non, je ne fais pas. Et pourquoi il ne fait pas? Il dit, parce que je n'étais pas sûr que c'était vrai, je voulais vérifier. Donc, j'ai fait d'abord ce que le Ramak m'avait enseigné. Et je suis arrivé à des dévoilements, mais ça buguait. Et le Hari lui dit, bah, évidemment que ça buguait. Tu n'as pas fait ce que moi je t'ai dit. Donc, ça bug. Parce que quand tu fais les Yichudim, les Kavanot, des enseignements des gens qui sont avant moi, eh bien, en fait, c'est comme si tu travaillais avec un Nokia 3310, alors que moi, je te permets de travailler avec un iPhone 22. Voilà, la comparaison est claire. Mais ça veut dire que d'un côté, bon, la Torah du Hari, elle est énorme, mais de l'autre côté, ça veut dire que Rabbi Chaim Vital, il n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et il va passer un an et demi à être élève du Hari à remettre en cause ce que le Hari lui explique, pour finalement l'accepter. Mais pourquoi il remet en cause? Parce qu'il n'est pas une feuille vierge, parce qu'il a déjà un enseignement, et qu'on ne on lui fait pas avaler n'importe quoi. Il vérifie chaque chose. Et est-ce que c'est bien? Évidemment que c'est bien. Et ça doit nous donner à nous un enseignement fondamental. Quand le Rav te dit quelque chose, tu te dois d'aller vérifier. Tu ne peux pas accepter pour argent comptant ce que le Rav te dit juste parce que il a l'air grand. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important pour notre vie au quotidien. Hein, c'est-à-dire, entre parenthèses. Bekitsour, Rabbi Chaim va avoir une influence énorme sur la transmission de Torah à Kabbalah. Il va écrire énormément. Il va écrire énormément puisqu'il va écrire des livres comme Otsrot Chaim, il va écrire des livres comme des Mavot, des introductions, si vous voulez, à l'enseignement de la Kabbalah. Il va écrire évidemment le livre Sha'arei Kedusha. Sha'arei Kedusha. Alors, Sha'arei Kedusha, c'est vraiment un mix de la Torah du Ramak qu'on peut retrouver dans le livre Tomer Dvora, mais également dans l'enseignement du Harizal. Il va avoir Sefer HaChezionot, Sefer HaGoralot, Sefer HaPeulot. Donc, énormément de livres, mais la masterpiece de Rabbi Chaim Vital, eh bien, je voudrais vous lire ce qui a marqué dans l'introduction de ce livre sur l'importance de l'étude de la Kabbalah. Nous dit Rabbi Chaim Vital, oubli safek, il n'y a aucun doute, kiaoskim betalmud bavli bilvad, ceux qui étudient le Talmud simplement, c'est-à-dire Torah Taniglé en vérité, megasheshim keurim kir bilvushe at Torah, ve'en laem enaim ro'ot berazé at Torah anistarim po. Ceux qui étudient le Talmud, uniquement le Talmud, eh bien, ils sont comme des aveugles qui essayent de trouver leur chemin et trouver le mur vers la Torah. Mais ils n'arriveront absolument pas à comprendre tout ce que la Torah a nous enseigné. Et c'est ce qui est marqué. « Mi iver ki im avadai, aval akavanai, le mi'utei ve la afukei chachmei haemet anikraim banim » Ceux qui sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ce sont Chachmei HaEmet. Et donc, c'est ceux qui étudient évidemment Torah HaKabbalah. Aval haoskim b'mishna levada bilti istaklutam besodotea elu ivrim hem bevadai. C'est dur, hein? C'est dur, nous dit le Rabbi Chaim Vital. Ceux qui n'étudient pas la Kabbalah sont aveugles. Sont aveugles dans la volonté divine. C'est chaud. C'est chaud parce qu'on connaît énormément de rabbins qui ont laissé une grande, 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 grande trace dans le judaïsme, mais qui étaient complètement uniquement des niglistes, qui n'étaient pas du tout dans la Kabbalah. Nous dit Rabbi Chaim Vital, c'est terrible. Le Rav Kook, dans son livre, Mishpat Cohen, dans son livre Mishpat Cohen, va rapporter un enseignement de Rabbi Chaim Vital qui lui aussi est... C'est dur, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la base de cet enseignement du Rav Kook sur Rabbi Chaim Vital? Eh bien, vous savez, il y a un moment donné où il y a un homme à Jérusalem, non, à Yafo, autant pour moi, qui a réussi à produire de l'huile de sésame. Semblerait que c'était très nouveau à l'époque. Et il vient voir le Rav Kook et lui dit « J'aimerais que tu me donnes une cacheroute pour mon huile de sésame et une cacheroute pour Pessah. » Et le Rav lui donne. Et tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus. Pourquoi? Parce que c'est Kitniot, bien sûr. Et le Rav va leur expliquer, donc il y a des lettres qui s'envoient les uns les autres, et le Rav Kook va expliquer « C'est pas Kitniot ». Il explique pourquoi est-ce que le sésame, ce n'est pas Kitniot, et pourquoi même si ça avait été Kitniot, l'huile de sésame, ce n'est pas Kitniot, et quelque chose qui n'existait pas à l'époque de la xéra de nos sages sur les Kitniot ne peut pas être considéré comme Kitniot, mais Kitsour. plein de réponses halakhiques. Et finalement, les rabbins de Jérusalem rejettent toutes les réponses halakhiques du Rav Kook. Et à ce moment-là, le Rav Kook dit, cette tendance à vouloir tout le temps être machmir, alors qu'il y a tout à fait des moyens, d'après la Torah, de permettre, ça n'est absolument pas une preuve de religiosité, mais ce n'est qu'une preuve que vous n'avez pas étudié Torah Tassod. Et il dit, comme nous l'enseigne Rabbi Chaim Vital, que les gens qui s'éloignent de la Kabbalah sont des fauteurs, parce que à cause de leur éloignement de Etz HaChaim, et parce qu'ils ne s'occupent que de Etz HaDaat Tov Vara, la Halakha, alors Dieu ne les aide pas dans leur étude de Etz HaDaat Tov Vara, et ils se trompent, et ils interdisent ce qui est permis, et ils permettent ce qui est interdit, et ils rendent impur ce qui est pur, et ils purifient ce qui est impur, et c'est très grave. En d'autres termes, nous dit Rabbi Chaim Vital, si tu n'étudies pas la Kabbalah, ta Torah, ta Niglé, elle est bancale également. Et donc, vous aurez compris que son livre principal, il va l'appeler Etz Chaim. Etz Chaim. Et ce livre Etz Chaim est composé de 8 parties. Et c'est pour ça qu'on va aussi appeler ce livre Shmoné Hashéarim, les 8 portes. Et dans ces Shmoné Hashéarim, chaque char, Zéolam Umlo, évidemment, le plus connu d'entre eux, c'est pas connu, je ne sais pas à quel point il est connu, mais le plus connu d'entre eux, c'est Shahar HaKavanot. Shahar HaKavanot, où Rabbi Chaim Vital va nous expliquer comment on doit se connecter à Kadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est Rabbi Chaim Vital, les amis. Mais Rabbi Chaim Vital n'est pas tout seul. Rabbi Chaim Vital vit à côté d'un autre personnage qui est son contemporain. Il est un peu plus jeune que lui, puisque Rabbi Chaim, on a dit, va naître en 1542, et son contemporain dont on va parler maintenant va naître seulement en 1570, donc il naît presque 30 ans après lui. Alors évidemment qu'ils vont se connaître, mais l'un est un élève de l'autre. Et il s'appelle Rabbi Avraham Azoulay. Azoulay, en français. Alors, évidemment, je parle de Rabbi Avraham Azoulay et non pas de Avraham Azoulay, l'auteur du Petit Hebdo. C'est pas le même. C'est-à-dire, il est très possible, d'ailleurs je ne vais pas demander, mais il est très très possible qu'il soit un descendant direct de Rabbi Avraham Azoulay. Mais là, on va parler de Rabbi Avraham Azoulay du XVIe siècle. Et Rabbi Avraham Azoulay, eh bien, c'est l'arrière-grand-père d'un autre très, très grand sage de la Kabbalah, dont on parlera dans quelques semaines, qui s'appelle Maran Achida, Chaim Yosef David Azoulay. C'est-à-dire, donc, là, on est à l'époque de l'arrière-grand-père. Donc, Rabbi Avraham Azoulay. Alors, Rabbi Avraham Azoulay, il fait partie du Choug. Ah, d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas dit, parce qu'on est passé comme ça du maître à l'élève, mais Rabbi Chaim Vital meurt à Damas. Qu'est-ce qu'il fait à Damas? Eh oui, c'est la question qu'on ne s'est pas posée. Qu'est-ce qu'il fait à Damas? En fait, Rabbi Chaim Vital, il y a une histoire incroyable, incroyable, qui nous est racontée justement par ses élèves. Il habite à Jérusalem, parce qu'il n'a pas vécu toute sa vie que à Tzfat. Il habite à Jérusalem et à un moment donné, il est connu à Jérusalem, tout le monde sait qui il est, et il y a le responsable de Jérusalem, je vous rappelle qu'on est sous la domination de l'Empire ottoman, et le responsable de Jérusalem à ce moment-là est un homme qui s'appelle Abu Sayfan. Abu Sayfan, ça veut dire le père de l'épée. Bon, autant te dire que ce n'était pas quelqu'un de très très commode. En tout cas, un jour, Abu Sayfan se met en quête, il y avait une sécheresse à Jérusalem, et en tant que responsable de la ville, il veut trouver de l'eau. Il sait qu'il y a une très grande source d'eau à Jérusalem, Maayan, à Gihon. Seulement, le problème, c'est que les fouilles de Ir David n'ont pas encore les fouilles de Ir David n'ont pas encore commencé. Donc, on n'a pas encore retrouvé Brechat HaShiloach et la piscine de Chizkiyahou, et on n'a pas retrouvé la source. Donc, il n'y a pas cette eau-là. Et Abou Saïfan, il sait qu'elle existe, il sait, s'il connaît l'histoire, il sait que ces eaux-là ont été mises sous terre par les rois de Judée, les rois d'Israël, mais il ne sait pas où, il ne sait pas comment y arriver. Et donc, il demande à tous les Juifs de lui montrer, de lui indiquer l'ouverture et l'endroit de l'eau. Et les Juifs ne savent pas. Mais à un moment donné, il y en a un des Juifs de Jérusalem qui lui dit, regarde, il y a un homme qui est kadosh à Jérusalem, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. C'est sûr que lui, il sait. Alors, il y va. Abou Saïfan, on est vendredi, et il a réussi à trouver Rabbi Chaim Vital. Et il lui dit à ce moment-là, écoute-moi bien, mon ami. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais où est l'entrée pour trouver l'eau de Jérusalem. Alors, ce n'est pas compliqué, je t'explique. On est vendredi, je vais monter à la mosquée, sur le mont du Temple, je vais aller prier là-bas, et quand je reviens, tu as ouvert l'eau. Ok, c'est comme ça. Et si tu n'as pas ouvert l'eau, damcha berochra. Si, quand je reviens, l'ouverture des eaux n'est pas là, tu es mort. Et il s'en va prier. À ce moment-là, Rabbi Chaim va faire quelque chose. Il n'a pas envie d'ouvrir l'eau. Pourquoi il n'a pas envie d'ouvrir l'eau? Il sait où est l'entrée de Maharat Hizkiyahou. Mais c'est bouché par énormément de pierres, de cailloux, ce que tu veux. Et donc, pour l'ouvrir, il devrait utiliser Shemot HaKedoshim. Il devrait utiliser des techniques pas homologuées. Et il ne veut pas. Il ne veut pas faire de miracle. Donc, comme il ne veut pas faire de miracle, il ne va pas le faire. Mais comme il n'a pas envie de mourir non plus, il va quand même utiliser des Shemot HaKedoshim pour se téléporter à Damas. Lorsqu'il se téléporte à Damas, il reçoit la visite du Harizal. Il est évidemment déjà mort, mais ça, c'est pas grave. Et le Hari lui dit, « Salut, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit, « Ben voilà, il y a Abou Saïfan, il voulait me tuer, je voulais pas mourir. » Et le Hari lui dit, « Mais pourquoi n'as-tu pas ouvert les eaux de Jérusalem ?» Il dit, « Parce que je voulais pas utiliser les Shemot HaKedoshim. » Et là, le Hari, avec un grand sens de l'humour, même de l'au-delà, lui dit, « Ah, parce que c'est vrai que tu es venu à Dodan jusqu'à Damas. » Et là, le Harizal lui dit, « C'est vraiment dommage, parce que sache que toi, Rabbi Chaim, tu es un Gilgoul de Chizkiyahou Melech Yehuda qui a bouché les eaux, qui les a, enfin pas bouché, mais qui les a fait rentrer à l'intérieur de la terre qui font qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Et Abou Saïfan, quant à lui, était un Gilgoul de Sanhériv, le roi des Assyriens, à cause de qui Chizkiyahou a dû faire ça. Et donc, en fait, vous deux, vous auriez dû amener la Géoula en ouvrant les eaux de Jérusalem. Chaval, chaval que tu ne l'as pas fait. » Alors, je ne sais pas quel crédit accorder à cette histoire-là, mais il n'empêche qu'après cette histoire-là, eh ben, on retrouve Rabbi Chaim Vital à Damas. Et bon, bah, il va mourir là-bas. Et a priori, il est enterré à Damas. Je dis a priori parce qu'il y a une tradition qui tente à dire que son kever a été ramené bien plus tard à Kiryat Malachi. Lo baro, a priori non. Voilà, ça c'est pour Rabbi Chaim Vital. Et donc je peux arriver maintenant à son élève, eh bien, Arav Avraham Azoulay. Alors, Arav Avraham Azoulay, évidemment, son nom indique qu'il ne vient pas de Tzfat. Effectivement, il est né à Fès, au Maroc. il fait partie d'une famille qui est déjà très installée. C'est une famille qui vient, elle, de Castille, d'Espagne. Ils font partie des Megourashé Sfarad. Bekitsour, Rabbi Avraham Azoulay, eh bien, je ne vais pas vous faire tout son pédigré, comme quoi il étudie très jeune et il devient très très vite un grand 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 dans la Torah. Mais en fait, il va devenir extrêmement connu grâce à son bouquin. Alors, il en écrit plein des bouquins, mais il y en a un qui va être sa pierre angulaire. Sa pierre angulaire, c'est le livre Chesed le Avraham. Chesed le Avraham. Quelle est la teneur de ce livre? De quoi parle l'enseignement de Rabbi Avraham Azoulay? Eh bien, dans le livre Chesed le Avraham, c'est un long appel au retour en Israël. Un long appel à retrouver une normalité au sein du peuple juif. Tu ne peux pas être un juif authentique quand tu habites à Castille, quand tu habites à Fès, quand tu habites à Brooklyn, à Paris. L'authenticité du judaïsme, eh ben, doit être en Eretz Israël. De la même façon que tu ne peux pas être un juif authentique si tu ne fais pas Shabbat. Tu ne peux pas être un juif authentique si tu ne manges pas kasher. Je ne dis pas que tu ne peux pas être un bon juif. Ça n'existe pas dans ma bouche, la notion de bon et de mauvais juif. Mais l'identité juive passe par plusieurs choses. Et s'il te manque une de ces choses-là, eh bien, il te manque quelque chose dans l'identité juive. Des pachoutes. Il y a un film qui a fait polémique cette année d'un certain humoriste français. Hein, tout le monde voit de quoi je parle, évidemment. Eh bien, bon, moi, je vais vous dire que j'ai vu le film et franchement, c'est ce qu'on appelle se noyer dans un verre d'eau. Rien d'extraordinaire, rien de foufou. Je peux vous spoiler qu'à la fin du film, il ne se convertit pas au christianisme. C'est vraiment, c'est vraiment un pétard mouillé, quoi. Ok, un mec, il a fait un film, et il a dit qu'il était intéressé par le christianisme, et qu'à la fin, bah non. Ok, nous. Par contre, il y a un moment donné dans le film, qui est plus un film documentaire comme ça, où il décide d'aller prendre conseil avec un rabbin, parce qu'il est perturbé, le bonhomme. Et évidemment que le rabbin qu'il choisit, c'est une rabbine. C'est la directrice du mouvement réformé en France, Madame Delphine Orviller. Et elle dit quelque chose dans ce film, qui en fait, c'est pas pour le film, c'est ce qu'elle pense pour de vrai, qu'il n'y a pas vraiment de façon d'être juif, il n'y a pas d'identité juive véritable, que le juif, c'est être toujours dans le doute de qui on est. Les amis, c'est tout sauf juif, quoi. Ça, c'est très intellectuel de vouloir toujours se remettre en question, mais ce n'est pas du tout juif. C'est-à-dire que le juif, c'est justement une tradition extrêmement ancrée. Je sais très bien qui je suis. Et donc, l'authenticité du judaïsme passe justement par Tariag Mitzvot. Et il faut être conscient que si il y a telle ou telle mitzvah que je ne fais pas, je ne suis pas authentique. Je ne suis pas entier dans mon identité. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Enfin, tous les débats qui ont tourné autour de ce film sont, à mon avis, maintenant que je l'ai vu, quoi, sont, à mon avis, complètement erronés. Bon, de toute façon, je ne pensais pas puiser les références de mon identité juive chez Gad Elmaleh. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, hein, le fait est que aujourd'hui même, il nous manque une grande partie de notre identité. On ne peut pas dire que ça y est, on est rentré en Israël, on est authentique. L'écrasante majorité des mitzvot dépendent du Beth Amikdash. Donc évidemment qu'il nous manque quelque chose au niveau de notre identité. Mais on fait ce qu'on peut. Et donc Rabbi Avraham Azoulay, lui, il veut commencer à plaidoyer pour revenir à une normalité du lieu, que le peuple juif doit revenir en terre d'Israël. Et c'est donc de Rabbi Avraham Azoulay qu'on va tenir un enseignement incroyable. Vous vous rappelez de ce que nous dit le Talmud? Nous dit le Talmud, « Kol adar be'eretz Israël, domé le mish yesh lo Eloha. » Tout celui qui habite en Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. « Ve kol adar be'chutz ala'aretz, domé le mish ein lo Eloha. » Et tout celui qui habite en Chutz la'aretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est marqué dans le livre de dans le traité de Ketubot, dans la Gemara, la page 110. C'est très grave comme phrase. Vous imaginez le rabbi de Lubavitch? Vous imaginez tous les rabbins, Rashi? C'est dur. Nous dit Rabbi Avraham Azoulay. D'abord, personne ne t'a dit qu'il n'avait pas de Dieu. On t'a dit, il ressemble à quelqu'un. Et le chidouche de Rabbi Avraham Azoulay, il est fantastique. Il dit, tout celui qui habite en Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Afalpi shenira she'en lo. Il rajoute, il dit, tout celui qui habite en Israël, il est quelqu'un qui a un Dieu, même si il semble de l'extérieur ne pas en avoir. Et il dit, tout celui qui habite en Chutz la'aretz est quelqu'un qui n'a pas de Dieu, même s'il semble de l'extérieur en avoir un. C'est encore plus grave. C'est, il te dit, tu vois des gens en Chutz la'aretz qui sont habillés comme des religieux, ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont connectés à Dieu. Tu vois quelqu'un qui habite à Tel Aviv avec 37 piercings et 29 tatouages, ça, il n'a pas l'air d'être la personne la plus malé beirat shamaim, et pourtant, yeshlo. Et donc Rabbi Avraham Azoulay continue en disant quelque chose de terrible. Il dit « Kol adar be'eretz Israël nikra tzadik ». Tout celui qui habite en Israël est tzadik. Y compris les grillades à Kippour sur la plage. Pourquoi ? Il dit, parce que s'il était racha, la terre l'aurait vomi. Aré nous dit la Torah que Vatakia arrête ses traînes. Donc si on ne fait pas ce qu'il faut, la terre nous vomit. Donc s'il est en Israël, c'est qu'il est tzadik. Ah, peut-être que les critères de qu'est-ce qui est tzadik et qui ne l'est pas, ne sont pas les mêmes que ce que tu avais dans la tête. Ça, c'est possible. C'est-à-dire, donc, Rabbi Avraham Azoulay, c'est vraiment le combattant pour la terre d'Israël. Et justement, puisqu'on parle de combat pour la terre d'Israël, puisqu'on parle, d'ailleurs, entre parenthèses, on peut aller sur la tombe de Rabbi Avraham Azoulay. Et il est enterré dans le vieux cimetière juif de Hebron. Et c'est le moment pour moi de vous le dire. Quand on va à Hebron, alors, je ne sais pas comment on organise les visites à Hebron, machin, mais quand on va à Hebron, on a tendance à se concentrer uniquement sur Meharat Amarpela, Veshronat Avraham Avinu. Alors, c'est déjà très bien, et je suis déjà très content qu'il y ait des gens qui aillent à Hebron à Meharat Amarpela. C'est un scandale sans nom, sans nom! Il n'y a pas de plus grand scandale que celui-là. Qu'il y a des gens qui sont en Israël depuis je ne sais pas combien de temps, qui n'ont jamais été à Hebron sur la tombe d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka et Léa. C'est un scandale. C'est-à-dire, c'est pashut boucha. Et il n'y a aucune excuse. Zéro excuse. Il y a un bus direct, Jérusalem-Hebron, en une heure, tu es sur la Maat Arpela. Il n'y a aucune excuse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas concevable qu'on n'ait pas été sur la tombe de papy et mamie. C'est zélo. Zélo. Maintenant, il y a plein de gens qui ont été, et plein de fois, mais qui n'ont été que là-bas. Et là, je dis, c'est dommage. Peut-être qu'il s'agit ici d'un appel déguisé. Il est possible. Je ne sais pas. Mais en tout cas, les amis, si déjà, c'est dommage de rester que à Meharat Amarpela. Bon, après, il y a ça dépend de plein de choses au niveau sécuritaire et tout ça, mais il y a plein de choses à voir à Hebron. En l'occurrence, si on parle de Kvarim intéressant, on peut quand même rappeler qu'il y a aussi là-bas le Kever de Ruth et Ishaï, l'arrière-grand-mère et le père du roi David. Ce n'est pas rien non plus. On pourra préciser qu'il y a le vieux cimetière juif de Hebron, ce qui est complètement paradoxal de dire ça, parce que je viens de parler de Maharat Amarpella et du tombeau de Ruth et Ishaï, ils sont vraiment vieux, et après je te parle du vieux cimetière juif du début du 20e et du 19e siècle. C'est un petit peu contradictoire, mais en tout cas, dans ce qu'on appelle le Bet HaKvarot HaAtik, eh bien, on va pouvoir trouver Rabbi Avraham Azoulay, qui est enterré là-bas, donc 400 ans en arrière, et donc sa tombe, elle est à Hebron. En tout cas, puisqu'on parle de cette volonté de revenir en Eretz Israël, eh bien, c'est ce qui nous permet d'arriver chez un autre Chacham. Alors lui, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que, eh bien, c'est un Européen. C'est un Praguien. C'est un Praguien qui va venir en Israël. Donc, on est dans le thème. Il naît en 1558 et il s'appelle Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz. Rabbi Ishayahu Alevi Horowitz. Je ne comprends pas. Il est né, sa famille vient de Prague, lui, il ne vient pas de Prague. Lui, il est né à Lublin, en Pologne. Et Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz, il vient d'une famille, qui est une famille de Talmidei Chachamim, pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, ils sont uniquement Betorat Haniglé. Ce sont des Talmidei Chachamim de génération en génération, mais dans le Niglé. D'ailleurs, entre parenthèses, quelle date le Shla? Comment tu sais que c'est le Shla? Moi, j'ai pour l'instant parlé que de Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz. C'est ça, hein? Le Shla. D'accord. Alors, le Shla, comme tu dis, on a dit, il naît en 1558, il mourra en 1630. C'est-à-dire, maintenant, Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz, pour montrer un petit peu que ça rigole pas au niveau de la halakha chez eux, ils décident qu'on n'a pas le droit de manger, tenez-vous bien, de la dinde. Assour la dinde. Hodou. Lama assour le hodou. Parce qu'il dit que les ophotes, on n'a pas de simanim pour les ophotes. Ce n'est pas comme les animaux où il faut avoir les sabots fendus et ruminés, ou les poissons où il faut avoir des écailles et des nageoires. Dans les Ophotes, on n'a pas de simané kashrut brurim. Donc, tous les volatiles, pour pouvoir les manger, il faut une massorette. Et lui, il dit qu'on n'a pas de massorette sur la dinde. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la famille Horowitz, eh ben, ne mange pas de dinde. Ne mange pas de hodou. Après, il y a peut-être d'autres gens que les Horowitz, mais voilà. C'est-à-dire que comment il s'appelle, Aaron Horowitz, qui est le directeur de l'association, enfin pas l'association de, comment on dit, de tout Ir David. Aaron Horowitz, il nous avait raconté que lui aussi il ne mangeait pas de dinde parce que dans sa famille, Rabbeinu Ishayahu, il a dit on ne mange pas de dinde. En tout cas, Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz, il ne va pas rester uniquement dans Torah Niglé. Il va très très vite commencer à étudier Torah Asod. Alors, je tiens quand même, parce que c'est important quand même de le rappeler, il est très très vite, il ouille évidemment, donc il est très vite reconnu pour ses talents de rabbanout, et donc il va commencer à devenir rabbin dans plein de communautés. Et parmi les communautés, je tiens quand même à le préciser, Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz va être le rabbin de la ville de Metz. Voilà, je pense que ça mérite d'être souligné. Quoi qu'il en soit, finalement, il décide de partir en Eretz Israël. Il décide de partir en Eretz Israël à pied. À pied ! C'est fou ! Et donc, il va partir. Il va arriver, il va passer par, évidemment, le nord, et donc il va passer par la Syrie, par Halab, par tous les Chachamim qui sont là-bas, Et de là, il arrivera à Jérusalem. Finalement, il arrive en 1622 à Jérusalem. Il est déjà très connu. Il est très connu. Et il a entendu parler des écrits de Rabbi Chaim Vital. Et donc, il veut absolument étudier les écrits de Rabbi Chaim Vital. Il rentre donc chez son fils, Rabbi Shmuel Vital, et il commence à étudier Kitvei Etzraïm. C'est une véritable révolution pour lui. Et à ce moment-là, il décide de partir de Jérusalem pour aller à Tzfat. C'est assez rare, mais il décide de monter à Tzfat pour pouvoir véritablement s'imprégner de Torah à Kabbalah. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en deux secondes, puisque entre-temps, il va être fait prisonnier à Jérusalem. Et finalement, une fois qu'il sera libéré et qu'il peut arriver à Tzfat et qu'il peut commencer à s'imprégner de tout cela, alors il va commencer l'écriture de son œuvre, de son bouquin, qui lui a valu non seulement son nom, mais qui lui a valu également tous ses détracteurs. Puisqu'il va écrire un livre qui s'appelle « Shnei Luchot Abrit ».« Shnei Luchot Abrit », en abréviation, « Shla ». « Shnei Luchot Abrit ». Et donc, on va l'appeler « Hashla Akadosh ». Mais le problème, c'est qu'il y a plein de rabbins, entre autres les rabbins de Jérusalem, qui vont commencer à se dire, mais pour qui il se prend celui-là, d'écrire un livre qui s'appelle « L'étape de la loi ». Hein, faut quand même falloir qu'il se calme, le monsieur. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, à Shla, à Kadosh, il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal avec le nom du bouquin. Mais « Shnei Luchot Abrit », c'est un livre essentiel, essentiel, « Betorat HaKabbalah ». Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de ce livre? Qu'est-ce qu'il nous écrit? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Lorsque le livre va sortir pour la première fois, nous sommes en 1648, donc presque 20 ans après la mort du Shla, eh bien, on nous dit la chose suivante dans l'édition qui sort le livre pour la première fois. Imrot teorot, mipninim yekarot, ribur al shte torot, birtav ou bealpe, מסיני וממסורות, ארוחות וסדורות מהגיבור שבגבורות. איש אלוהי, בוצינה קדישה, מרא דארא דישראל. Donc vous imaginez, considéré comme étant le patron d'Eretz Israël, החכם השלם בכל מידות וחוכמות. רבנו, ישעיהו, הלוי, במשפחת הורוביץ. Les amis, finalement, ça n'a pas mis longtemps. Finalement, après la mort du Shla, tout le monde le reconnaît. Et en fait, dans son livre, l'introduction, comme je viens de lire, eh bien, elle va faire que ça passe crème, comme on dit. Il dit « Mechaber shtet torot, birtav ou be'alpe ». Mais lui, dans son livre, il dit « Ani lo bati lechaber ella Torah tanigle ve Torah tasod ». Donc, ce n'est pas seulement Torah shebirtav, Torah shebe'alpe. C'est lui, il veut réunir la Torah du Sod, la Torah de Kabbalah, et Torah Taniglé. Parce qu'on ne peut pas l'un sans l'autre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va écrire cette fila qui est la plus connue. Fila la Hatzlachat Abanim. Qu'on lit à Rosh Chodesh, qu'on lit juste avant Shavuot. Tfila Tashla Kadosh. Maintenant, c'est quoi cette fila de Hatzlachat Abanim? Si vous regardez ce qui a marqué dans cette fila-là, c'est une phrase niglé, une phrase nistar, une phrase niglé, une phrase nistar. Bon, j'exagère, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils puisent dans toute la Torah taniglé l'importance de la continuité, l'importance du chinour, et ils puisent dans Torah tanistar, dans Torah tasod, tout ce qui va faire que le fils est la réalisation de l'espoir de toutes les générations. Donc, Zéhashla Akadosh Rabbeinu Ishayahu Alevi Horowitz, qui finalement va être enterré à Tibériade. Parce que vous imaginez, il y a des gens qui ont été à Tibériade plein de fois, qui ont été sur le lac de Tibériade, qui ont été faire des bananes à Tibériade, mais qui n'ont jamais été dans le vieux cimetière de Tibériade. C'est une honte. Zé Boucha Vecherpa. Comment imaginer qu'on se soit en Israël depuis tant d'années et qu'on n'ait pas été sur la tombe du Rambam. Ils sont tous au même endroit. Sur la tombe de Rabbeinu Yeshayahu Alevi Horowitz. Sur la tombe des Tanaïm. Ils sont enterrés là-bas. Bekitsour, on a de quoi tiouler. On a de quoi aller se balader en Eretz Israël. Alors, vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas du tout le style à aller faire un tioul qui aurait de Sadikim. C'est sympathique, mais on ne va pas voir que des tombes. Il y a aussi plein d'autres choses à voir. Mais c'est très important d'aller se connecter, d'autant plus que nous, maintenant, on a appris qui ils étaient et quels étaient leurs enseignements, et bien de se connecter à tous ces gens extraordinaires, que soit, alors Rabbi Chaim Vital, on ne sait pas vraiment où est son tombeau, mais que ce soit Rabbeinu Yeshayahu Alevi Horowitz à Tibériade, ou que ce soit eh bien, Rabbi Avraham Azoulay à Hebron, Bekitsour, pourquoi aller au tombeau? C'est se connecter. Voilà une question qu'elle est bonne. Finalement, je peux me connecter en faisant ce qu'on est en train de faire nous, à savoir étudier sa Torah, bien sûr. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Aller sur la tombe de quelqu'un, tu sais, dans le judaïsme, on a l'habitude d'y déposer une pierre. Quand on va sur la tombe de quelqu'un, on met une pierre. La poétesse Rachel est aussi à Tibériade, certes. Mais j'avoue, sans vouloir lui porter atteinte, que je ne la mets pas dans la même dimension que le Rambam et que le Shla et que voilà, sans vouloir porter atteinte à Rachel, à Meshoreret, mais Becholzot. Quoi qu'il en soit, parce que je pensais que tu allais me dire autre chose. Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait Rachel Ishto shel Rabbi Akiva, qui est aussi à Tibériade. Parce que je veux bien qu'on soit féministe et qu'on veut mettre une fille dans l'eau, mais il y a Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Oh oh, oh oh. Alors de la gratière, ce n'est pas vraiment à Tibériade, mais oh oh aussi, vadaï. Bekitsour, David, quand on va sur la tombe de quelqu'un, on a l'habitude dans la tradition juive d'y mettre une pierre. Pourquoi une pierre? Eh bien, alors oui, évidemment, par rapport aux fleurs que mettent les goïms, les fleurs ça fane, la pierre ça reste. Mais au-delà de cela, parce qu'une pierre, ça se dit Even. Even, ce sont les initiales de Av Ben Neched. C'est-à-dire que, de la même façon qu'entre un père, son fils, son petit-fils, il y a une continuité, eh bien, je viens sur la tombe de quelqu'un et je viens dire, voilà, toi, tu t'es arrêté là. Ta tombe, c'est là où toi, tu as arrêté d'influencer dans ce monde de manière concrète. Eh bien, sache que moi, je viens, je pose une pierre, c'est un passage de témoin. Je viens dire, de là, tu t'es arrêté, de là, je continue. Je m'inscris dans le chemin que tu as tracé et je continue. Et avec mon chemin, avec ma façon d'être, mais je continue en empruntant tes pas. Donc évidemment que ça peut marcher en étudiant sa Torah, ça marche aussi. Voilà la Torah qui nous a enseigné, je l'enseigne à mon tour et je continue. Mais c'est vrai que cette dimension de dire, voilà, toi tu as fait tout ton chemin de vie qui t'a amené jusque là, de là, je continue. C'est pas obligatoire, mais voilà. C'est-à-dire, chez papy et mamie, quand je dis que c'est une honte qu'on n'y a pas été, c'est encore différent parce que à Votaouma, hein, c'est encore différent. J'avoue que pour les autres, les tzadikés adorot, ce qui m'embête, c'est surtout que les gens ils vont dans ces villes-là, mais si déjà ils sont là-bas, ils ne viennent même pas rendre visite à d'autres tzadikim. Donc voilà. Voilà. Alors, on croyait se séparer de ce 16e siècle et dire ça y est, c'est bon, maintenant on peut avancer. Eh bien non. Car la semaine prochaine, nous allons parler d'un énorme morceau. Voilà, on va lui réserver tout un cours entier, un masterpiece énorme qui vit au même moment et qui est extrêmement particulier parce qu'il est, à cette époque-là, la pierre angulaire et la plaque tournante de tout ce qui va être Torah Tassod et Torah Tanigle. Je parle évidemment du Maharal de Prague, c'est de lui dont on parlera la prochaine fois. Mais en attendant, vous pouvez allumer les micros. C'est parti.
Je pourrais poser une question.
Je vous en supplie.
Pourquoi Tibériade, ils sont enterrés et pas à Tzfat? C'est là où ils vivaient.
Alors, parce que tous n'ont pas vécu toute leur vie à Tzfat. Il y en a qui sont partis vivre à Tibériade également.
Tout le monde est à Tibériade et à Tzfat. Il n'y a pas
de... Vous exagérez. Vous exagérez. Tout le monde est à Tibériade. Non, tout le monde n'est pas à Tibériade.
Vous avez dit ça.
Pardon?
Nous avait dit qu'ils étaient tous à Tibériade.
Non, j'ai pas dit tous. J'ai pas dit tous, j'ai dit il y a le Rambam, j'ai dit il y a le Shla, j'ai dit il y a des Tanaïm. Les Tanaïm, ils étaient à Tibéad parce que le Sanhedrin, il était à Tibéad à un moment donné. Mais à Tzfat, vous avez quand même le Harizal, le Ramak, Rabbi Moshe Imtrani, Al-Sheikh HaKadosh. Ça va, il y a du monde aussi à Tzfat, hein, vous inquiétez pas. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il est à Tzfat. Kitsou, il y a de quoi faire à Tzfat aussi, hein, vous inquiétez pas.
Arav, question de Gabriel Lévy.
Oui. Gabriel ?
Oui, voilà, c'est bon. Alors, Rav, moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce que dit le Rav Avraham Azoulay, chez Koladar Beret Israël Nikrat Tzadik. Quel tokef vous donnez à cette parole ? Est-ce que c'est Kepchuto, selon vous, ou à prendre avec des pincettes ?
Les deux, c'est évidemment que c'est Kipchuto, mais évidemment que c'est Kipchuto selon Rabbi Avraham Azoulay. C'est-à-dire qu'il te dit, voilà. S'il était Racha, la terre le vomirait, donc il ne serait pas là, que la terre ne supporte pas les fauteurs. Donc s'il est là, c'est que finalement il n'est pas Racha. La question maintenant, c'est quoi le critère de Rabbi Avraham Azoulay pour dire t'es tzadik ou t'es Racha ? C'est certainement pas un critère de Shulchan Aruch.
Mais donc ce critère, c'est juste le fait d'habiter en Israël ?
Ce critère, semble-t-il, pour Rabbi Avraham Azoulay, c'est de dire, hein, est-ce que je suis connecté à l'identité juive ? Est-ce que je suis connecté avec la réalité d'Israël ? Est-ce que je suis connecté avec le fait que le peuple juif, il doit revenir à Sion ?
D'accord. Et pour ceux qui... Oui, mais pour ceux qui le font sans forcément mettre... qui habitent ici sans mettre l'âme de ce que ça représente...
Et c'est ça le grand truc. Venir habiter ici, c'est déjà mettre l'âme. Maintenant, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour les mitzvot.
Oui, je comprends bien.
Je suis pour les mitzvot. Mitzvot is good, mitzvot is beautiful. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas mettre les tefillin. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas s'habiller tzniout. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas manger kasher et de ne pas faire shabbat.
C'est l'obéseder. Bien sûr,
je comprends. Mais il faut bien comprendre que lorsque tu viens en Israël, c'est déjà une élévation de l'âme. C'est pas, parce qu'il y a des gens qui disent l'alia, ça doit être aussi spirituel. Ça ne peut pas être qu'une alia matérielle. C'est une incompréhension de la Torah de dire ça. Quelqu'un qui monte en Israël, c'est déjà une élévation de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il doit se limiter à ça. Il doit aussi se renforcer dans son Shabbat, sa kashrout, ce que tu veux. Mais ce que dit Rabbi Avraham Azoulay, c'est de dire... Rabotai, il est temps de commencer à revenir. Celui qui habite en Chutz La'aretz, il a un problème dans sa connexion avec Dieu. Mais non, il ne te dit pas que ça suffit de venir en Israël et que ça y est. Mais Nikra Tzadik, parce que s'il est là, c'est que finalement, il n'est pas suffisamment racha pour que la terre le vomisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, évidemment.
Ok.
Juste une petite question. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas voulu Raïm Vital pour l'eau. J'ai pas compris.
Pourquoi il n'a pas voulu ouvrir l'eau ?
Oui, j'ai pas compris.
Il pensait que ce n'était pas le moment de dévoiler Maïm Raïm. Il pensait que ce n'était pas encore le moment de pouvoir réaliser la Géoula. Et le Hari lui a dit, c'est dommage, tu as raté le coche.
Mal. Ah,
oui.
Moi, je rejoins la dernière question là. Est-ce que vous pouvez repréciser se connecter aux tombes des tzadikim ? Parce que je comprends qu'on doit être une passation, mais bon, je vois pas en quoi physiquement y aller, ça change quelque chose.
Je me connecte pas du tout aux tombes. D'accord ? Il s'agit pas de nécrophilie, ni de nécromancie, ni de nécro, ce que tu veux. D'accord ? On se connecte pas aux tombes. La tombe, c'est une tombe. Ça y est. Mais je veux me connecter au chemin qui a été tracé par ce personnage là. OK ? Et donc, de manière symbolique, je viens et je dis, ce personnage s'est arrêté là. Si je veux véritablement continuer son chemin, eh ben, je commence par là où lui s'est arrêté. OK ? Maintenant, au-delà de ça, il y a effectivement une dimension de Kedusha particulière, là où le tzadik a été enterré. Justement parce que c'est là qu'il a, pour la dernière fois, pu influencer dans ce monde. Donc, il y a une dimension de Kedusha particulière, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sur la tombe de quelqu'un. C'est-à-dire, mais je dis, voilà, j'ai envie de continuer un chemin. Donc, continuer, ça prend un point de départ quelque part.
Arafizon, Toda Rabba.